Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 186 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel de Dieu.
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم.
Et quand mes esclaves t'interrogeront sur moi, alors que je suis tout proche, je réponds à l'appel de qui fait appel quand il m'appelle. Qu'il cherche donc à répondre à mon appel et qu'il croit en moi, peut-être serait-il le bien dirigé.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de Radio Téhéran en ce jeudi 21 mars 2024. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Mes collègues vous présenteront ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. L'axe de la résistance a contrecarré les projets américains dans la région, a souligné le leader de la révolution islamique. La centrale électrique de Tel Aviv a été visée par la résistance irakienne et des centaines de militants britanniques ont protesté contre le soutien militaire à Israël. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le leader de la révolution islamique, l'ayatollah Sayyid Ali Khamenei, a salué les opérations anti-israéliennes menées par les factions de la résistance en Palestine, au Liban, au Yémen et en Irak. L'axe de la résistance a fait preuve de tout son potentiel et a efficacement bouleversé les calculs stratégiques de Washington en Asie de l'Ouest, a déclaré le leader. Lors de son discours prononcé à l'occasion du Nouvel An iranien ce mercredi 20 mars à Téhéran, l'ayatollah Khamenei a déclaré que l'ambition de longue date des États-Unis de dominer la région a été sapée par la résilience de l'axe de la résistance. Les États-Unis n'ont désormais d'autre choix que de se retirer de la région, a déclaré l'ayatollah Khamenei. Il a réfuté les allégations occidentales selon lesquelles l'Iran serait à l'origine de tous les actes de la résistance dans la région, précisant que bien que l'Iran soutienne ces mouvements, ceux-ci agissent de leur propre chef. Nous développerons les propos du leader de la révolution islamique dans le commentaire politique. La résistance islamique irakienne a déclaré jeudi avoir frappé la centrale électrique de Tel Aviv dans une attaque de drones. La résistance islamique en Irak a déclaré dans un communiqué que ces drones avaient visé une centrale électrique à Tel Aviv le jeudi matin 21 mars en réponse à l'assassinat du peuple opprimé de Gaza par les militaires sionistes. Cette frappe intervient au lendemain d'une autre menée par les combattants irakiens contre l'aéroport Ben Gurion, à proximité de Tel Aviv. En réponse au massacre israélien contre des civils palestiniens innocents, la deuxième phase des opérations de la résistance irakienne a commencé, comprenant la mise en œuvre d'un blocus sur la navigation maritime israélienne en Méditerranée et la mise hors service des ports israéliens. Le 12 mars, une autre attaque de drone contre le même aéroport Ben Gurion avait été également réalisée. La résistance irakienne a par ailleurs pris d'assaut par drones et missiles des bases de l'armée américaine en Irak et en Syrie ainsi que des cibles dans les territoires occupés. Des affrontements éclatent en Cisjordanie après qu'une frappe aérienne de l'armée de l'air israélienne ait fait deux morts à Tul Karim. Les frappes aériennes israéliennes contre le camp de réfugiés de Nur Shams à Tul Karim, dans le nord de la Cisjordanie, ont tué deux Palestiniens après qu'une frappe antérieure à Jenin ait coûté la vie à trois combattants de la résistance. Les jeunes Palestiniens, Nidal Abu Obeid, et Iyad Nidal Kanou ont été tués en martyr lors d'une frappe aérienne israélienne citant le camp de réfugiés de Nur Shams à Tul Karem, dans le nord de la Cisjordanie occupée. Dans toute la Cisjordanie et à Rots occupée, de violents affrontements ont eu lieu alors que les forces d'occupation israéliennes menaient des raids et des assauts contre les citoyens palestiniens et leurs maisons. Selon les sources affiliées à la chaîne d'information libanaise Al-Mayadin, basée en Cisjordanie, une puissante explosion a retenti après qu'un bulldozer militaire israélien a été pris pour cible par la résistance dans la rue Al-Seka à Tul Karem. Les forces d'occupation israéliennes ont empêché les équipes paramédicales de transporter les blessés et ont pris d'assaut l'hôpital Tabet Tabet pendant l'incursion, démolissant les infrastructures civiles du camp. Les forces d'occupation israéliennes ont mené des raids à Al-Khalil dans le sud de la Cisjordanie, notamment à Dour al-Samou, Yatta et Beit Oumar, attaquant les maisons des citoyens palestiniens. Des affrontements ont également éclaté entre deux jeunes Palestiniens et les forces d'occupation israéliennes dans le quartier de Kfar Arab à Al-Rotz, tandis que les forces d'occupation prenaient d'assaut le camp de réfugiés de Ralandia. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, souligne avoir enregistré 410 attaques israéliennes contre le secteur de la santé à Gaza depuis le début de la guerre génocidaire du régime lancée le 7 octobre 2023. Les attaques ont fait 685 morts et 902 blessés. Elles ont endommagé 99 installations et touché 104 ambulances à travers tout Gaza, a indiqué le mercredi 19 mars l'agence onusienne sur X. L'OMS a ajouté que les 2/5 des attaques israéliennes, 38%, avaient lieu dans la ville de Gaza, un quart, 23%, dans le nord de Gaza, et plus d'un quart, 28%, dans la ville de Khan Younes, située au sud de la bande assiégée. Soulignant que le secteur de la santé ne doit pas être une cible dans les conflits armés, l'Organisation mondiale de la santé a exhorté le régime israélien à respecter le droit international, qui appelle à une protection active des civils et des établissements de santé. Plus tôt, l'OMS a également lancé un sévère avertissement, affirmant qu'un nombre croissant d'enfants à Gaza sont au bord de la mort, tout simplement parce qu'ils ont très faim. En signe de solidarité avec les Palestiniens, des centaines de personnes en Angleterre et en Écosse ont bloqué, mercredi 20 mars, des usines d'armement qui produisent des composants pour les avions de chasse F-35, actuellement utilisés par Israël pour bombarder la bande de Gaza. Les manifestants, parmi lesquels des professionnels de la santé, des enseignants, des employés de l'hôtellerie et de la restauration, des universitaires et des artistes, membres d'un large éventail de syndicats, mènent cette action sous la bannière « Travailleurs pour une Palestine libre » afin d'interrompre le flux d'armes à destination d'Israël. Les usines qui fabriquent des pièces de rechange pour les avions de combat F-35 sont accusées de renforcer l'offensive militaire du régime israélien à Gaza. Environ 15% des composants de tous les F-35 sont produits en Grande-Bretagne, selon le producteur américain Lockheed Martin. Par cette protestation, les militants pro-palestiniens exigent au Royaume de mettre fin à la chaîne d'approvisionnement en armes d'Israël et de ne plus collaborer avec le génocide en cours contre les Palestiniens à Gaza. Les manifestants se sont engagés à poursuivre leurs actions de protestation pendant un mois, plaidant pour un cessez-le-feu permanent. Les hauts gradés du service russe des renseignements extérieurs, SVR, ont déclaré que toute unité militaire française envoyée en Ukraine pour aider les forces de Kiev à combattre la Russie serait une cible prioritaire pour l'armée russe. Le mardi 19 mars, Sergueï Narychkine, chef du renseignement russe, a mis en garde la France après que le Kremlin a reçu des informations selon lesquelles Paris s'apprêtait à envoyer un contingent de 2000 soldats en Ukraine pour lutter contre la Russie. Il deviendra une cible prioritaire et légitime des attaques des forces armées russes. Cela signifie qu'elle subira le sort de tous les Français qui sont venus dans le monde russe avec une épée, a déclaré Narychkine. Ces commentaires interviennent après que le président français Emmanuel Macron a déclaré le mois dernier qu'il n'exclurait pas l'envoi de troupes terrestres pour aider l'Ukraine à combattre la Russie. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. l'axe de la résistance à contrecarrer les projets américains dans la région. Le leader de la révolution islamique, l'ayatollah Sayyid Ali Khamenei, a salué les opérations anti-israéliennes menées par les factions de la résistance en Palestine, au Liban, au Yémen et en Irak. L'axe de la résistance a fait preuve de tout son potentiel et a efficacement bouleversé les calculs stratégiques de Washington en Asie de l'Ouest, a déclaré le leader. Lors de son discours prononcé à l'occasion du Nouvel An iranien ce mercredi 20 mars à Téhéran, l'Ayatollah Khamenei a déclaré que l'ambition de longue date des États-Unis de dominer la région a été sapée par la résilience de l'axe de la résistance. Les États-Unis n'ont désormais d'autre choix que de se retirer de la région, a déclaré l'Ayatollah Khamenei. Il a réfuté les allégations occidentales selon lesquelles l'Iran serait à l'origine de tous les actes de la résistance dans la région, précisant que bien que l'Iran soutienne ces mouvements, ceux-ci agissent de leur propre chef. Évoquant le sort tragique des Palestiniens, l'Ayatollah Khamenei a déclaré qu'aucune personne consciencieuse ne pouvait rester silencieuse face à l'oppression génocidaire exercée par le régime israélien dans la bande de Gaza. La campagne meurtrière et destructrice menée par Israël à Gaza avait illustré la fragilité du régime dans sa lutte pour sortir du bourbier que constitue le territoire palestinien assiégé. Le régime sioniste est vaincu, qu'il quitte ou non Gaza, a-t-il souligné. L'Ayatollah Khamenei a dénoncé l'indifférence de certains dirigeants occidentaux à l'égard de la situation à Gaza et leur soutien continu à Israël. Plus de 30 000 personnes sont massacrées. Le monde civilisé observe la situation et non seulement n'empêche pas ces atrocités, mais il les facilite. Le leader a déclaré que l'occupation israélienne de la Palestine était une grande injustice. En ce qui concerne la devise du Nouvel An, à savoir l'essor de la production via la contribution du peuple, le leader a réitéré que l'économie reste la principale préoccupation du gouvernement. Il a appelé à la mobilisation de toutes les ressources et à des efforts collectifs de la part de l'ensemble de la nation pour soutenir la croissance économique. Le leader a souligné l'importance de la mise en œuvre des accords économiques internationaux et de l'amélioration de l'efficacité en tant que stratégie clé pour stimuler davantage l'économie. Les tentatives continues des adversaires visant à démanteler l'économie iranienne par le biais de sanctions et d'autres tactiques ont constamment échoué grâce à la résilience du peuple iranien. S'est-il félicité? Le leader a réitéré que les adversaires de l'Iran tentent de semer le désespoir au sein de la nation en exagérant les défis et en minimisant les réalisations. Il a souligné l'importance de garder espoir et de reconnaître la remarquable série de succès marquée par l'Iran en dépit de telles tactiques de l'ennemi. Évoquant le rôle essentiel de l'unité nationale, l'Ayatollah Khamenei a appelé à davantage d'efforts pour favoriser la solidarité entre tous les Iraniens. Le leader de la révolution islamique a appelé le peuple à s'abstenir de propager l'animosité et la division et à s'unir plutôt pour affronter les ennemis de l'Iran.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, certains pays du monde envoient des munitions et d'armement à Israël, mais la principale source d'armement et d'approvisionnement est de loin les États-Unis. Alors, il y a des manifestations un peu partout dans le monde, surtout aux États-Unis même, qui donc dénoncent l'envoi des armements directement à Israël pour tuer des innocents palestiniens. Plus de presque 32 000 Palestiniens sont tués en martyrs au cours de ces derniers mois. Alors, ce qui est donc l'ironie du cas, c'est bien sûr les États-Unis qui prônent pour un cessez-le-feu immédiat dans la région et de l'autre part, approvisionnent bien sûr beaucoup d'armement, 30 000 tonnes d'armement à Israël, 50 navires de guerre donc envoyés dans la région pour aider Israël de tuer des innocents palestiniens. Nous allons développer ces questions à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
Plus de 35 000 tonnes d'armes et de munitions ont été envoyées à Israël depuis le début de la guerre, la plupart en provenance des États-Unis. Comme le rapporte le journal Israel Hayom dans son édition du lundi 18 mars, depuis le début de la guerre, plus de 300 avions et une cinquantaine de navires transportant des munitions et du matériel militaire, soit près de 35 000 tonnes de systèmes d'armes et de munitions, sont arrivés en Palestine occupée. Une petite partie des expéditions provient de plusieurs pays du monde, mais le principal fournisseur a été et reste les États-Unis, ajoute la source. Le journal ajoute que les expéditions d'armes et l'appui évident des États-Unis à Israël ont permis à l'armée israélienne de combattre à Gaza au cours des 5 derniers mois, tout en restant prêt à la guerre sur le front nord. Soutenu par les États-Unis, le régime d'occupation israélien continue le génocide à Gaza depuis que le mouvement de résistance palestinien Hamas a mené son opération historique le 7 octobre 2023 contre l'entité usurpatrice en représailles aux atrocités intensifiées du régime sioniste contre le peuple palestinien. Jusqu'à présent, le régime de Tel Aviv a tué au moins 31 819 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, et en a blessé 73 935 autres. Le régime d'occupation commet un crime de guerre en affamant intentionnellement la population de Gaza par la destruction des réserves alimentaires et en restreignant fortement l'acheminement de nourriture, de médicaments et d'autres fournitures humanitaires.
Et bien voilà pour le reportage. À présent, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos deux chers invités et de les accueillir sur le plateau du débat d'aujourd'hui. Il s'agit de Maître André Chamy, juriste international et expert des questions internationales, qui a accepté notre invitation. Maître Chamy, bonjour.
Bonjour à vous tous, à toute l'équipe, et surtout à votre invité, notre ami Maître Hatem.
Voilà, justement, Maître Eli Hatem, qui est avec nous depuis Paris, également juriste international. Bonjour, Monsieur Hatem.
Bonjour et merci de votre invitation. Toutes mes salutations également à mon confrère André Chamy.
Le fait que vous soyez amis tous les deux, j'espère que ça ne va pas vous empêcher de vous contredire, car il s'agit d'un débat en fin de compte. Alors ma première question va s'adresser à Maître André Chamy, bien sûr. Est-ce que c'est devenu presque banal d'être témoin quotidiennement de la mort aux martyrs des centaines de Palestiniens et d'approvisionnement des munitions et d'armement de la part des États-Unis?
Ah non, mais il y a quelque chose que j'ai appelé, moi, dans mes différentes interventions, c'est la banalisation de l'horreur, pour ne pas dire la banalisation de la terreur, parce que cette guerre est menée de manière particulièrement sauvage, particulièrement meurtrière, et qui n'a qu'un seul but, en réalité. On peut chercher tous les autres prétextes. Cette guerre n'a qu'un seul but, c'est de faire déguerpir la population de Gaza de ce territoire, parce qu'Israël a décidé depuis de longues dates de récupérer ce territoire, et le prétexte de l'attaque du 7 octobre n'était que, je dirais, le prétexte qu'Israël attendait. Ça aurait pu être n'importe quoi, ça aurait été pareil, parce qu'Israël était décidé à aller récupérer ce territoire à des fins électorales, évidemment, mais aussi pour satisfaire l'entité sioniste dans ses convictions, en disant « on récupère nos vieux territoires qui remontent à la nuit des temps, pour ne pas dire à Mathusalem, et parce que ça s'appelle les écritures d'Isaïe, et à partir de là, ben, ils considèrent que c'est leur territoire, et on a entendu des voix, y compris en France, notamment en France, dire que c'est leur terre et que personne n'a le droit de les critiquer s'ils doivent récupérer leur terre, oui, parce que c'est un droit divin qui leur a été accordé par on sait quel Dieu en qui ils croient.
Maître Chamy, est-ce que ce prétexte a été créé et encouragé par Israël pour avoir justement ce prétexte que vous dites pour attaquer la bande de Gaza?
En réalité, si vous reprenez les événements à partir du 7 octobre, le 7 même au soir, il se passe la chose suivante, c'est que Israël reprend en guillemets les manettes de la guerre, et qu'est-ce qui se passe? La propagande dans le monde entier consistait à dire qu'il fallait se débarrasser de la population de Gaza, parce que c'est la population de Gaza qui est une population de terroristes, puisque les enfants de Gaza, comme je vous le disais, selon les lectures mal tournées, si j'ose dire, qui ont été opérées par les sionistes concernant le livre sacré, qui consiste à dire qu'il faut éliminer les enfants, les femmes, les vieillards, les hommes, parce que, rappelez-vous que Netanyahu a utilisé le terme Amalek, c'est-à-dire il fallait avoir une source religieuse pour justifier l'injustifiable, en l'occurrence la banalisation de la terreur. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je vous donne carte blanche pour vous débarrasser de tous ceux qui habitent sur cette terre. Ils restent, ils meurent, sinon ils partent, et à ce moment-là, on récupère notre terre. En tout cas, ça, c'est le langage utilisé ici ou là, oui, parmi les promoteurs de l'entité sioniste et de l'esprit sioniste et de l'idéologie sioniste.
Absolument. Merci pour cette introduction. À présent, j'aimerais connaître celle de Maître Eli Hatam. La vôtre, je vous prie.
Oui, écoutez, comme l'a dit mon cher confrère, il y a ces fondements à cette opération ou à ces différentes opérations, parce qu'il faut rappeler que la question palestinienne et puis le génocide, ou je dirais même l'extermination progressive du peuple palestinien, n'a pas débuté le 7 octobre 2023, mais elle a eu lieu depuis même avant la création de l'entité sioniste en tant qu'État en 1947, donc bien avant 1948, et elle se continue. Et vous avez, comme l'a très bien démontré aussi mon confrère André Chami, il y a une série d'horreurs qui sont commises. En fait, toutes ces horreurs sont, je dirais, pas comparées à celles qui ont été commises lors de la Seconde Guerre mondiale par les nazis, sont équivalentes, ou même pires, parce que les nazis n'ont pas, quand même, ont épargné certains enfants. Or là, nous avons assisté avec une préméditation à une volonté d'exterminer les enfants sous prétexte que ces enfants vont grandir et vont constituer une menace pour le peuple d'Israël, selon les expressions de dirigeants et même de rabbins israéliens, qui sont allés même jusqu'à considérer, bon, certains rabbins, que Hitler était une bénédiction divine. Et c'est ça qui a fait un rapprochement entre le nazisme et le sionisme, en prétextant, en prétendant que Hitler, l'action de Hitler a permis le retour, l'alia, donc des juifs d'Europe, et surtout les Ashkénazes, à la terre promise. Et vous vous souvenez, nous nous souvenons tous, en fait, de la fameuse déclaration de Benjamin Netanyahu, qui avait dit que Hitler n'avait pas pour objectif donc d'exterminer les Ashkénazes, mais il voulait simplement les expulser. Les expulser, et c'est là où il y a quand même une convergence entre les nazis et les sionistes. Les sionistes avaient pour objectif le retour, ou plutôt l'envoi de peuples de confession juive en Palestine pour créer cette entité, la transformer en un État. Et les nazis voulaient se débarrasser de la présence de juifs qu'ils étaient accusés de tous les maux d'Europe occidentale.
Absolument. Bien, alors ce que vous dites tous les deux est une réalité, bien sûr, mais j'aimerais que vous parliez à présent de la politique de deux poids deux mesures menée par les États-Unis à l'égard, donc, dans la bande de Gaza. D'une part, donc, ils prônent pour un cessez-le-feu immédiat, et de l'autre part, et ils envoient des milliers de tonnes de munitions et d'armements à Israël pour permettre plus facilement à Israël de mener ce génocide, donc cette guerre génocidaire. Et comment expliquez-vous, Maître André Chami, cette politique de deux poids, deux mesures? Soit c'est la force du lobby sioniste, bien sûr, au sein de du gouvernement américain, ou bien c'est autre chose?
Non, c'est beaucoup plus profond que ça, parce qu'en réalité, il y a indiscutablement une espèce de lobby sioniste, personne ne le conteste, mais en réalité, les États-Unis pensent aux États-Unis. Il faut quand même garder ça en tête, c'est-à-dire d'abord, ce sont leurs intérêts qui les intéressent. Aujourd'hui, il y a un problème, effectivement, que constitue l'entité sioniste, parce que jusqu'à présent, l'entité sioniste représentait des intérêts américains dans la région, parce que c'était leur gendarme. Or, le principe de gendarme, c'est qu'il puisse faire peur. On constate depuis des années que malgré la terreur pratiquée par les Israéliens, cela ne suffit pas et les Israéliens ne font plus peur, à tel point que maintenant, ils reçoivent des coups, si j'ose dire, depuis l'Yémen, l'Irak, la Syrie, le Liban et bien entendu les Palestiniens de l'intérieur comme les Palestiniens de Gaza. Par conséquent, aujourd'hui, cette espèce de peur comme quoi personne ne peut vaincre l'entité sioniste, me semble-t-il, a disparu. Et c'est la raison pour laquelle les Américains doivent revoir leurs calculs. Mais ils ne peuvent pas couper net comme ça dans leur politique générale, en tout cas dans leur politique étrangère. Il faut qu'ils se repositionnent différemment. Et nous sommes dans ce cadre-là. Aujourd'hui, les Américains se repositionnent, ils font des déclarations qui reste mitigé, mais dans la pratique, il ne peut pas couper la corde de l'entité sioniste immédiatement. Il faut d'abord qu'il trouve, sur le plan géopolitique, une sorte de substitution à cette présence. À un moment donné, à mon avis, la question va se poser, et c'est ce que j'appelle dans le livre que je suis en train de décrire, il y a une chute indiscutable. Et ça, je dirais, c'est le sens même de l'histoire. Il y a une chute indiscutable de l'entité sioniste et qui aboutira à sa disparition. Et qu'on me comprenne bien, quand je dis la disparition, ça ne veut pas dire que je suis en train de dire qu'il faut faire disparaître le peuple qui habite là, il faut faire disparaître l'entité sioniste, c'est-à-dire l'idéologie sioniste. Parce que le problème vient de l'idéologie sioniste qui empêche même la cohabitation entre les gens qui font partie de différentes confessions ou de différentes religions, parce que les juifs ont toujours existé dans notre région, ça n'a posé aucun problème. C'est l'entité sioniste qui a créé ce problème de cohabitation, c'est l'idéologie sioniste qui a créé ce problème-là. Il n'y a pas de problème par rapport aux religions, ce n'est pas une guerre de religion. Cette guerre de religion a existé en Europe, mais pas en Orient. Et l'Orient a été utilisé comme une espèce de défouloir pour se débarrasser du problème juif en Europe. Mais les juifs d'Orient n'ont jamais eu de véritables difficultés dans cette région-là. Par conséquent, il ne faut pas parler d'élimination des juifs, il faut parler d'élimination de l'idéologie sioniste et en conséquence de l'entité sioniste. Et à partir de là, on peut repenser, si j'ose dire, l'avenir de cette région-là. D'une manière ou d'une autre, il y aura toujours une solution. Mais d'abord, la chute de l'entité sioniste et de l'idéologie sioniste, c'est la voie indiscutable et inévitable, pour ne pas dire inéluctable, pour toute sortie de crise dans cette zone.
Bien sûr, Maître Ali Hatam, nous sommes témoins d'un ralentissement d'aide américaine à la bande de Gaza, à Israël contre la bande de Gaza. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec Maître Chami quand il parle de la disparition, bientôt, de l'entité sioniste?
Écoutez, c'est une réalité que nous voyons sur le terrain. Je vais vous rappeler une chose. Vous vous souvenez, avant ce qui s'est passé en début octobre, nous avons assisté ou nous assistions à des manifestations populaires au sein de cette entité. Il faut rappeler une chose, que Israël est une entité artificielle. Autrement dit, il n'y a pas une cohésion sociale. C'est un ensemble composé par différentes communautés de différentes origines. Premièrement, les origines racialistes auxquelles se réfère en fait l'entité sioniste, parce qu'il faut le dire que c'est un régime, c'est une société racialiste dans laquelle il y a au sommet en fait de la pyramide sociale les Ashkénazes qui sont considérés comme la première catégorie sociale et de race supérieure par rapport aux Mizrahi et aux Sépharades, qui sont considérés comme des citoyens de, bien sûr, juifs, mais de deuxième classe. Les Sépharades, ce sont ceux qui sont d'Afrique du Nord, etc. Et les Mizrahi, ce sont les juifs qui se trouvent dans les pays arabes du Mashrek. Et vous avez la troisième et la dernière catégorie avant les Goyim, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas juifs, et ce sont les Falachas, et qui sont considérés comme la troisième catégorie dans cette pyramide sociale ou sociologique de la société de l'entité sioniste. En plus, vous avez différents courants. Vous avez les différents courants religieux. Il y a ceux qui rejettent totalement également le sionisme, en particulier Natura et Carta, mais nous assistons de plus en plus à une certaine révolte aujourd'hui de la part même des Haridim, et nous voyons toutes ces manifestations qui ont lieu, surtout la position du grand rabbin des Juifs orientaux qui s'est révolté contre cette décision d'obliger les Haridim à participer au service militaire. D'autre part, il n'y a pas de cohésion, je dirais, culturelle. Vous savez, toutes ces communautés, toutes ces tendances, ces courants religieux ou ces courants laïques, et puis il faut parler aussi du néo-sionisme et du post-sionisme. Et le post-sionisme qui, comme vous le savez, est un... et qui a été fait payer, qui est en fait contre le sionisme et qui critique totalement le sionisme. Et ce qui veut dire, il y a deux choses, d'une part, il y a une réaction naturelle populaire, mais il y a également un effort idéologique de la part des ex-sionistes qui se sont réveillés et qui ont trouvé qu'effectivement, il s'agit d'une idéologie mortifère, racialiste. Alors, il faut rappeler que les Nations Unies avaient jusqu'en 1991, considérer que le sionisme est une forme de racisme. Et puis, ce côté racialiste s'est renforcé par deux éléments. C'est la judaïté de l'État, c'est-à-dire c'est l'État des Juifs, c'est pas un État juif, mais c'est l'État simplement aux Juifs, et les autres ne sont plus considérés comme des citoyens. Deuxième élément, la décision de 2017 de la Cour suprême, qui permet de faire des analyses génétiques pour déterminer la judaïté des personnes, ce qui a été vivement critiqué au sein même de la société israélienne de l'entité sioniste. Donc tous ces éléments prouvent que à long terme, bien sûr, avec le recul, nous arrivons quand même à la fin de ce mythe, de cette idéologie du peuple même juif, comme l'a dit Shlomo Sand dans ce livre, le fameux ouvrage qui est consacré à ce mythe, en fait, du peuple juif. Il dit qu'il n'y a pas un peuple juif, il y a plusieurs peuples, et il y a des communautés, il y a des peuples qui sont juifs.
Absolument. Mais bon, c'est absolument vrai. Nous pouvons espérer, Maître Chamil, la disparition de l'entité sioniste très bientôt. Mais pour le moment, pour être réaliste, sur le terrain, nous sommes témoins de la mort des femmes et des enfants quotidiennement, donc dans la bande de Gaza. Mais si on dit à eux que bientôt l'entité sioniste va disparaître, mais alors que chaque jour ils subissent des dégâts humains et matériels énormes dans la bande de Gaza. On parle maintenant, dans ces jours-là. Est-ce qu'on peut espérer que la situation change ou Israël va aller jusqu'au bout, jusqu'à la disparition de la bande de Gaza, par exemple?
La volonté existe, mais est-ce que l'antisioniste a les moyens d'aller jusqu'au bout de son projet sans provoquer une réaction en chaîne, si j'ose dire, puisque ça commence, y compris dans le monde occidental, puisqu'on a aujourd'hui entendu parler du Canada qui coupe les vivres, si j'ose dire, c'est-à-dire refuse de livrer des armes et des munitions, même en disant qu'elle ne livrait pas d'armes, elle livrait surtout essentiellement des moyens de communication. Mais à partir du moment où, moi, ce que j'appelle la peur change de camp, c'est-à-dire, jusqu'à maintenant, ce sont les peuples qui ne se soumettaient pas à l'antisioniste qui avaient peur. Aujourd'hui, au contraire, c'est l'antisioniste qui craint pour son avenir parce qu'elle voit que le vent est en train de changer. Et évidemment, maintenant, il y a un tel mouvement de révolte, y compris dans le monde occidental, en Afrique. L'Afrique du Sud, c'est le plus bel exemple qui existe. Vous prenez par contre certains pays arabes, je ne dis pas que ça me désole, je dis ça me dégoûte, parce qu'ils n'arrivent même pas à suivre le mouvement de l'histoire. Ils ont toujours été, je dirais, à l'arrière-boutique de l'histoire, et là maintenant ils sont mis dans le fond de cale de l'histoire, parce qu'aujourd'hui, pour moi, il n'existe plus ces gens-là. Et en parallèle, vous voyez, le monde entier changer et se diriger vers une émancipation, une sortie de ce que j'appellerais d'un nouveau vent de liberté, et vous avez ces pays qui, au contraire, se soumettent aux dictats des Américains et des Israéliens et deviennent leurs véritables esclaves, pour ne pas dire leurs subsidiaires, parce qu'ils contribuent d'une manière ou d'une autre à ce qui se passe contre le peuple palestinien. Et c'est ça que je trouve détestable, mais les Palestiniens résistent, tiennent bon, et leur courage est un exemple à suivre. Et en réalité, l'axe de la résistance n'a jamais été aussi présent dans les esprits aujourd'hui, parce que chacun rappelle à l'autre la puissance dont il dispose, et évidemment, chacun dit que je viens au soutien des autres membres de l'axe de la résistance. Et c'est comme ça que vous voyez les Yéménites lancer hier, on a parlé de missiles cruise, dernière génération qui a atteint Eilat. Les combattants de Hezbollah, continuellement depuis le 8 octobre, ils n'ont pas cessé d'apporter leur soutien aux Palestiniens. Les Palestiniens de l'intérieur, c'est-à-dire de Cisjordanie, continuent de provoquer des troubles à l'intérieur du territoire, et ça va se généraliser, parce que moi j'ai la conviction que même les Palestiniens de 48, c'est-à-dire ceux qui ont été intégrés, comme le disait Maître Atem, plus ou moins en tant que citoyen, mais de dernière zone au sein de la société israélienne, même ceux-là finiront par bouger. D'ailleurs, il y a quelque temps, rappelez-vous, il y a eu des troubles dans ces villes-là, et d'ailleurs la ville de Lod, qui est une ville symbole, puisqu'il y a eu le génocide de Lod, et là, aujourd'hui, on a un mouvement d'émancipation ou de libération au sein de particulièrement cette ville-là, qui a obligé à l'époque les Israéliens de quitter la ville un laps de temps, le temps qu'ils retrouvent la puissance de l'armée qui est venue les remettre à leur domicile. Mais ils ont dû déguerpir par la puissance justement et par la peur de leurs entre guillemets voisins palestiniens. Il y a quelque chose qui est en train de changer, mais c'est une véritable lame de fond, c'est-à-dire il y a quelque chose de profond qui se passe, et à un moment donné il y a un vrai courant qui va venir et qui va emporter cette entité et créera une autre situation, en tout cas une nouvelle vie pour la population qui réside dans cette région-là.
Nous l'espérons tous, bien sûr. Maître André Chami, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Un grand merci à Maître Eli Hatam d'avoir apporté des précisions à l'émission du débat d'aujourd'hui. Et bien, ici prend fin le débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
La voix de la lumière.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Louange au prophète de la paix et de la clémence, le vénéré Muhammad. Que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants. Dans ce programme de la Voix de la Lumière, nous vous présentons la lecture, la traduction et l'exégèse des versets 23 à 30 du chapitre 50 du Noble Coran, la Sainte Sourate Qaf. Restez avec nous jusqu'à la fin de la Voix de la Lumière d'aujourd'hui. notre dernier programme, nous avons lu ensemble des versets qui nous ont appris que Dieu connaît parfaitement tout ce que l'on fait, tout ce qu'il pense et tout ce qu'il ressent. Par sa clémence, le Seigneur ne châtiera pas ses créatures pour leurs tentations et leurs mauvaises pensées tant qu'ils ne sont pas passés à l'acte et n'ont pas commis des péchés ou des délits. En effet, Dieu est plus proche de ses créatures que leurs veines jugulaires. Deux anges, l'un à gauche et l'autre à droite, sont témoins de tout ce que chaque individu humain accomplit à tout moment de son existence. Ils enregistrent aussi les bons et les mauvais actes de chaque individu. Certains gens ne considèrent pas les paroles comme des actes qui pourraient être enregistrés par ces anges comme leurs actes. Or, les paroles ont des effets indéniables dans tous les aspects individuels ou sociaux de l'existence humaine. C'est la raison pour laquelle le Saint-Coran met particulièrement l'accent sur l'importance des paroles. Quand l'heure de la mort arrive, l'homme est pris d'angoisse. Mais c'est pour lui le moment de la vérité. L'homme découvre que la mort est le passage vers l'au-delà où chaque individu sera jugé pour ce qu'il a fait pendant son existence matérielle sur la terre. La mort est donc un passage de ce monde vers la vie éternelle dans l'autre monde. Dans ce programme de la Voix de la Lumière, écoutons d'abord les versets 23 à 26 de la Sainte Sourate Qaf, puis nous vous en donnerons la traduction.
وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد
Et son ange compagnon dira: voilà ce qui est avec moi, tout près. Vous, les deux anges, jetez dans l'enfer tous mes créants endurcis et rebelles, acharnés à empêcher le bien, transgresseurs, douteurs, celui qui plaçait à côté de Dieu une autre divinité. Jetez-le donc dans le dur châtiment. Selon le récit des actions que les anges ont préparées, l'homme comparaîtra devant le tribunal divin. Sur cette base, Dieu sépare les criminels infidèles des bons serviteurs et les punit pour leurs actes. En fait, ils ne croient pas en Dieu par l'obstination et en pratique, ils créent un obstacle à toute bonne action. De telles personnes transgressent les limites fixées par Dieu et font hésiter les autres à accepter le bon chemin. Ils prennent des partenaires pour Dieu et conduisent les gens vers de faux pouvoirs. Ces versets du noble Coran nous apprennent que si l'incrédulité et la mécréance sont dues à l'ignorance, il y aura encore de l'espoir pour une personne de revenir sur le bon chemin. Mais si la mécréance est due à l'entêtement et au fanatisme, elle devient chaque jour plus intense et plus profonde. Dans ce cas, la possibilité de revenir vers le bon chemin pour une telle personne deviendra inconcevable et peu probable. Contrairement aux croyants qui font le bien et invitent les autres à faire de bonnes actions, les non-croyants et les mécréants empêchent les autres de faire de bonnes actions. Il existe des degrés de punition en enfer, et cela dépend du degré d'incrédulité et de péché de chaque individu. Voici maintenant les versets 27 à 30 de la Sainte Sourate Qaf.
قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد.
Son camarade, le diable, dira: Seigneur, ce n'est pas moi qui l'ai fait transgresser, mais il était déjà dans un profond égarement. Alors Dieu dira: Ne vous disputez pas devant moi, alors que je vous ai déjà fait part de la menace. Chez moi, la parole ne change pas, et je n'opprime nullement les serviteurs. Le jour où nous dirons à l'enfer: « Es-tu rempli ?» il dira: « Y en a-t-il encore ?» Le Coran parle de ceux dont les gens de leur compagnie les conduisent en enfer comme les mauvais amis, les chefs de la mécréance et Satan qui est à leur tête. Lorsque les gens sont confrontés à leur sort certain au jour de la résurrection, les criminels se disputent entre eux, avec leurs dirigeants corrompus et avec Satan. Chacun d'eux essaie de rejeter la faute sur l'autre. Les criminels disent « Sans vous, nous aurions été croyants » ou bien ils disent « Nous sommes tombés dans cette misère parce que nous avons obéi à vous ». Bien entendu, ces débats n'auront aucun effet sur leur châtiment et n'y diminueront rien. Satan dit aussi pour se défendre « Seigneur, je n'ai forcé personne à ne pas croire et à désobéir à ton commandement. Mais ils ont oublié eux-mêmes le chemin qui mène à toi, et ils sont tombés dans une profonde erreur. Mais les gens de l'enfer accuseront Satan et tenteront de justifier leur péché. C'est ici que l'appel divin met fin à leur conflit. Nous n'avons pas le temps de dire ces mots. Le devoir de chacun est clair, et chacun sera puni selon sa faute, ni moins, ni plus. Personne ne devrait jamais penser que la capacité de l'enfer est limitée et qu'en raison de l'existence de grands et nombreux pécheurs, son tour ne viendra pas. L'enfer appelle les pécheurs et demande: Y a-t-il de plus encore ? Ces versets du noble Coran nous apprennent que nous ne choisissons pas nos parents, nos frères ou nos sœurs, mais nous choisissons de bons ou de mauvais amis et compagnons qui ont une grande influence sur notre destin. Au jour du jugement dernier, personne ne pourra imputer ses erreurs à de mauvais amis, à des dirigeants corrompus et injustes, ou à Satan. Personne ne pourra nier sa propre responsabilité. Dieu n'a pas manqué de guider les humains et ne les a pas opprimés. Dieu ne manque pas de punir les oppresseurs, car réduire le châtiment des oppresseurs provoque une injustice envers les bons et les opprimés. Les criminels seront logés en enfer à cause de l'injustice qu'ils ont commise contre eux-mêmes et non à cause d'une injustice de Dieu à leur égard. En fait, Dieu ne fait jamais de tort à personne. Chers auditeurs, ici s'achève la voie de la lumière d'aujourd'hui. La prochaine fois, nous vous présenterons la lecture et l'exégèse d'autres versets du chapitre 50 du noble Coran, la sainte sourate Qaf. D'ici là, nous vous confions toutes et tous à la garde de Dieu.
Thank you.